le masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 24 mai pour un masque et la plume pour temps de déconfinement. Un masque que j'ai souhaité consacrer à un art qui est victime, en particulier de la pandémie, le théâtre, et qu'il faut plus que jamais soutenir comme il faut soutenir les comédiens, les metteurs en scène, les techniciens de la scène qui connaissent, vous le savez, des jours très difficiles, pour ne pas dire terribles. Aux dates d'ailleurs du Festival d'Avignon qui n'aura pas lieu, je vous proposerai deux masques et la plume dédiés au spectacle vivant. Aujourd'hui, on parle de pièces accessibles en DVD et en VOD. Un fil à la patte, Roméo et Juliette, Le Misanthrope, Oh les beaux jours, Cendrillon, La femme de ma vie, avec chacun chez soi et tous ensemble, Fabienne Pascaud de Télérama. Bonjour Fabienne.
Bonjour Jérôme.
Armelle Elliot du Figaroscope. Bonjour Armelita.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Salut Vincent Josse, notre ami du grand atelier dominical de France Inter.
Salut Jérôme, bonjour à tous.
Et bonjour Jacques Nerson de l'Obs. Dans le toujours abondant courrier de la semaine, je ne voudrais citer qu'une seule lettre. Elle m'a touché, elle est signée du docteur Cécile Lafaille. Je tenais à vous informer que le titre de votre émission avait été mis en valeur par les équipes de réanimation de la Pitié-Salpêtrière. Je suis moi-même pédiatre sur ce site et j'avais envie de leur rendre hommage. Chaque jour, ils ont publié sur le site de la Société française d'anesthésie-réanimation et sous le nom Le masque et la plume, un article sur le Covid-19 pour permettre à l'ensemble des médecins d'être informés des dernières avancées sur ce sujet. Merci à vous pour votre émission que nombre d'entre nous suivent et merci à eux pour l'immense travail qu'ils ont réalisé pendant toutes ces semaines. Bonne journée, docteur Cécile Lafaille. Ben, merci à vous, madame. Merci à tous les soignants, évidemment, ces héros dont on ne dira jamais assez le lourd tribut qu'ils ont payé et qu'ils payent encore au Covid-19. L'autre lettre de la semaine est, si j'ose dire, lettre morte. Envoyée le 12 mai, elle est arrivée le 19 pour annoncer, vous le savez, la disparition de l'immense Michel Piccoli, dont il faut rappeler qu'il a fait ses débuts d'acteur au théâtre auquel il a été fidèle toute sa vie. Il disait d'ailleurs « On ne peut pas être artiste au sens plein du terme si on est coupé du théâtre ». Il a joué dans une soixantaine de pièces sous la direction des plus grands, Villars, Brooke, Régis, Bondy, Chéreau, Gruber, Bob Wilson. Il a été aussi bien le Don Juan de Molière devant la caméra de Bluval que le Roi Lear mis en scène par André Engel. Alors, vous les critiques, offrez aux auditeurs, s'il vous plaît, votre plus beau souvenir théâtral de Michel Piccoli. Fabienne.
Moi, Michel Piccoli, il me troublait beaucoup au théâtre. On a beaucoup dit que c'était un monument du théâtre, hein, parce qu'il a commencé dans les années 40 jusqu'à la fin des années 2000, donc c'est 60 ans de théâtre. Pour moi, c'est l'anti-monument, au contraire, parce que c'était quelqu'un qui était toujours imprévisible, d'une grande liberté, d'une grande audace. Et il avait l'art de gêner le public en scène, de l'inquiéter, de l'angoisser. Dans la fosse suivante, aux côtés de Jean Birkin, qu'avait mis en scène Patrice Chéreau, par exemple, il était un valet totalement dérangeant. Dans Le Roi Lear, que vous avez mentionné, et qu'on peut d'ailleurs voir sur le site de l'Odéon Théâtre de l'Europe en ce moment, il était un roi fou, un père incestueux, monstrueux. Et il incarnait toutes les folies qu'on pouvait avoir. Et c'était en cela, je trouve, un acteur de service public, parce qu'il exorcisait nos peurs, nos terreurs, nos malaises.
Qui avait d'ailleurs presque commencé en 57 avec Jean Villars à propos de théâtre populaire. Le souvenir d'Armel.
Vous avez cité le film de Marcel Bluval. Et je dois dire que ce film qui date de 1965 a été un événement à l'époque parce qu'il n'y avait qu'une chaîne de télévision et que tout le monde regardait la même chose le soir. Ce film demeure un chef-d'œuvre extraordinaire avec Claude Brasseur, avec Anouk Ferjac. dans la saline d'Arcessenant et sur des plages. Il est à cheval et il a été un grand cavalier lié aux chevaux, Michel Piccoli. J'aimais le rencontrer chez Bartabas, où il discutait avec lui, avec les chevaux. Et sa plus grande blessure dans la vie, ça a été celle d'un coup de tête de cheval qui lui a fracassé le crâne.
Il en gardait la trace.
J'entendais à France Inter Peter Brook dire que cet accident faisait aussi que Michel, à la fin, il l'a écrit, se sentait comme un stylo sans encre.
Le souvenir de Jacques.
Moi, effectivement, mon plus grand souvenir, c'est ce donjon dont Armel vient de parler, parce que je crois même qu'au théâtre, je n'ai jamais vu depuis un donjon aussi extraordinaire. Il avait une virilité, un côté prédateur, carnassier absolument incroyable. Quand il a commencé à vieillir, dans la fosse suivante montée par Chéreau, il était devenu une sorte de... Il me faisait penser à Shere Khan, le tigre du Livre de la Jungle. Il avait une sorte de sourire suave, mais des griffes et des crocs incroyablement aigus. Il était dangereux, il faisait peur. Et c'était un magnifique, magnifique acteur.
Vincent, est-ce que tu avais fait un grand atelier avec Michel Piccoli ?
Non, c'était un petit peu trop tard pour pouvoir passer 2 heures avec lui, malheureusement. Mais j'ai un souvenir de jeune homme de 17-18 ans à Amiens, chez les Dames du Sacré-Cœur. Je suis en cours de français et on nous projette le film dont parlent Jacques et Armel, le Don Juan de Bluval. Et je vois cet homme immense, très droit, qui est aussi séduisant que terrifiant, qui est éminemment mystérieux, qui nie l'existence de Dieu, qui blasphème, et ça fait quelque chose à un adolescent de 17 ans chez les Bonnes Sœurs. Je ne sais pas si je lui dois le fait d'être athée, mais en tout cas je lui dois, et ça j'en suis certain, le goût du théâtre et la découverte du théâtre.
Et puis c'est vrai que ça a été une fidélité absolument exemplaire, alors que les rôles de cinéma se multipliaient pour lui, il n'a jamais, presque jusqu'au bout, voulu quitter la scène, qui était vraiment sa raison d'être. Salut Michel Piccoli. Et on commence ce masque et la plume théâtrale, je persiste et signe, avec peut-être l'initiative virtuelle la plus originale que le confinement a suscité chez un comédien de théâtre, en l'occurrence Robert Plagnol. La pièce qu'il avait créée en 2018 au Festival Off d'Avignon, mise en scène par le cinéaste Gilles Barnier, « La femme de ma vie » du Britannique Andrew Penn. Il a en effet décidé de la jouer en direct chaque jeudi, vendredi, samedi, depuis son domicile, via la plateforme Zoom, c'est à 19h. Mais attention, il faut se connecter un peu avant, car même sur le web, Plagnol n'admet pas de retardataire. Et alors, on rencontre, une fois qu'on a commencé, un chauffeur de mafieux qui est depuis toujours allergique au mauvais goût et à l'autorité, qui est passé par la case prison, où d'ailleurs il a découvert Proust et Dostoïevski, et qui, à 3h du matin, attend celle qu'il considère comme la femme de sa vie. On n'est pas, évidemment, au théâtre, au sens où nous tous on l'entend, mais on s'y approche, on y est presque, j'ai envie de dire, avec La femme de ma vie de Robert Plagnol sur la plateforme Zoom. Jacques.
J'ai été tout à fait ravi de revoir du théâtre, enfin, parce que le direct apporte quelque chose qui s'approche le plus du théâtre. Oui, c'est la présence réelle de l'acteur. Et il a pris, Robert Plagnol, un risque assez grand, parce que non seulement il joue, mais il se filme en même temps. Il se filme tantôt avec son téléphone, tantôt avec une tablette. Et il a réussi à se mettre en scène dans son appartement. À un moment donné, le personnage va se faire cuire un œuf à la cuisine, etc. Et à introduire une variété et d'angle et de mouvement suffisante pour que il y a aucune lassitude. J'avais vu le spectacle à Avignon où il avait été créé dans un des salons de l'Hôtel de l'Europe il y a 2 ans.
Oui, et j'ai retrouvé vraiment le même bonheur. Il faut rappeler, Jacques, qu'Andrew Penn a écrit ce monologue pour Robert Plagnol.
Spécial, parce que Robert Plagnol a participé à beaucoup de créations de ses pièces en France. Et donc, ils se connaissent maintenant suffisamment pour que Plagnol ait pu lui passer cette commande. Et apparemment, ça a beaucoup plu à Andrew Penn, puisqu'il en a écrit un autre, que Plagnol se dispose à jouer dans quelques temps.
Même plaisir, Fabienne, à voir Robert Plagnol dans La femme de ma vie.
Totalement, parce que Robert Plagnol, c'est un acteur un peu foutraque. Pour vous donner un exemple, il était le cuisinier dans un village du Berry cet été, où j'ai ma maison familiale. Donc je l'ai rencontré en train de faire la cuisine, de préparer des steaks, et jamais je pensais qu'il reviendrait au théâtre d'ailleurs, parce qu'il avait l'air d'aimer beaucoup ça, tenir un restaurant et cuisiner. Et là, je le redécouvre avec ce côté aussi bricoleur, fabricant, artisan. Il a un aspect comédien artisanal. Et ça, c'est très, très agréable. D'autant plus qu'il est toujours assez chic. Hein. On se souvient de lui, ses performances dans les spectacles de Jean-Marie Besset, par exemple. Il a une espèce d'élégance. Et là, il joue un pauvre type qui va se faire complètement manipuler. Et ça, on le découvre.
Un type dangereux aussi.
Un type dangereux, mais surtout un pauvre type. Ah, pour moi, un pauvre type. Ou alors, j'étais tellement séduite par Robert Plagnol que j'ai pas vu la phase assassine.
À mon avis, cette Italienne a dû goûter à la cuisine de Robert Plagnol dans le Berry. Et ça a dû influencer son jugement.
Très
Vincent.
Bonne, sa cuisine. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de spectateur.
Vincent.
Ça fait du bien de revoir un acteur, non pas sur scène, mais chez lui en tout cas, et jouer devant nous un texte contemporain. Il a une très belle relation à cet auteur-là. Et il fait des créations en France, ça faut applaudir. Faut applaudir aussi son initiative sur Zoom, parce que Zoom, moi, comme pas mal de mes camarades, ça me servait à boire des apéros à distance là pendant le confinement. Donc c'est quelque chose de très festif, d'un peu mystérieux. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On discute au départ avec les gens qui sont comme nous connectés. Et puis ça commence avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de travail aussi. C'est un travail très précis sur le cadre, sur le gros plan, sur le déplacement vers la cuisine et même les toilettes à un moment. On est vraiment
ça,
avec
cet
homme.
Ça c'est un peu inutile les toilettes.
Oui, mais c'est amusant de le suivre. C'est-à-dire que on participe à son monologue intérieur. Je ne trouve pas en revanche que
c'est
le texte
soit plus
soir
inutile que les œufs au plat à la cuisine. C'est pas parce que ça se passe aux toilettes que ça doit.
C'est de la fausse audace que d'aller aux toilettes qu'il aurait pu s'en passer, franchement. C'est de la fausse provoque.
Je suis pas sûr que ça recherche l'audace. Il est simplement en train de parler en lui-même et il a des gestes du quotidien.
Il accompagne son personnage.
Voilà. C'est ça, c'est un accompagnement.
En tout cas, je trouve
en revanche le texte un peu monolithique et l'interprétation aussi. Pardon, je sais que vous aimez beaucoup Robert Plagnol. Tout est un peu du même niveau. Je préfère la richesse d'un anglais comme Dennis Kelly. Vous vous souvenez de Girls and Boys? Je trouve que dans le monologue, dans la folie, dans le côté terrifiant, Kelly est plus fort que Payne.
Mais ça, c'est l'auteur.
Mais là, Plagnol, il a un naturel tel qu'on a l'impression qu'il invente le texte au fur et à mesure.
S'il me laisse parler, mes chers camarades, je dirais aussi que je suis très admirative de l'énergie de Robert Plagnol. C'est un très bon acteur, il a quelque chose d'un athlète, un peu à l'américaine, un visage ouvert. Il veut faire les méchants, mais il est comme un gosse. Et c'est quand même une belle performance, parce que c'est très émouvant de savoir qu'il est en direct et que c'est pour nous qu'il joue vraiment. Il s'amuse, il nous offre quelque chose de très original. Ça a si bien marché, il y avait certains soirs plus de 100 spectateurs connectés, enfin sans connexion, qu'il envisage d'en faire une chaîne web théâtre où il inviterait d'autres amis que lui. Il y a déjà Luce Mouchel ou des gens comme ça qui sont prêts à le suivre.
Je voudrais juste rappeler à quel point cette initiative est née à un moment peut-être le plus terrible, qui est celui où les salles de théâtre sont fermées. Et donc des initiatives comme celle-là méritent d'être, je pense, applaudies. C'est donc Robert Plagnol, c'est la femme de ma vie. Attention, ça n'est visible et audible que 3 jours par semaine, jeudi, vendredi, samedi, c'est bien sur Zoom et c'est à 19h, mais allez-y tôt pour être sûr d'avoir une place. Un fil à la patte de Feydeau, mise en scène à la Comédie Française en 2011 par Jérôme Deschamps, un vaudeville en 3 actes et auréolé de 3 Molières que France 5 a diffusé avec beaucoup de succès, ça m'a fait plaisir, le 20 avril dernier, et qui est disponible en replay jusqu'au 13 juillet. Je rappelle, Bois d'Anguien, c'est Hervé Pierre, essaie non sans mal de se débarrasser de sa maîtresse, la chanteuse de Cafconce, Lucette Gauthier, qui est jouée par Florence Viala, le jour même où il doit épouser Viviane. C'est Georgia Scaliette, la fille de la baronne du Verger, avec Thierry Ancis dans le rôle du furieux général Irigoyen, avec un accent à couper au couteau, qui convoite également Lucette Gauthier. Guillaume Gallienne, transformé en Miss Betting, le chaperon anglais de Viviane, et puis dans le rôle légendaire du clerc de notaire Bouzin, où avait excellé jadis, vous vous en souvenez, Robert Hirsch. Là, c'est mon chouchou, l'inénarrable, élastique, explosif, Christian Eck, Armel.
Oh, c'est formidable. Parce que bon, c'est cette génération-là qui s'empare de cette merveilleuse pièce. Vous citez Robert Hirsch, c'était la mise en scène de Charon avec Pia, avec Micheline Boudet, avec Denise.
Qui était un Bouzin incroyable, lui aussi. Hein.
Ouais. Ils sont aussi forts, quoi. Mais ils ont une telle pêche. Et les didascalies, les indications de Feydeau sont tellement précises qu'au fond, le réalisateur Dominique Thiel n'a eu qu'à suivre la mise en scène de Deschamps, qui lui-même a suivi très scrupuleusement la mécanique merveilleuse de Feydeau.
Et puis ça va à une vitesse et,
ah ouais,
et
c'est
d'un brillant, moi qui m'a, je l'ai vu je ne sais combien de fois, qui m'a encore une fois frappé quand ça a été rediffusé.
Et on lit beaucoup le Figaro, c'est très bien.
Oui, absolument. Vincent.
Le petit reproche que je ferais, moi, à Deschamps, c'est qu'il a vu sans doute quand il avait 23 ans à la création de la mise en scène de Jacques Charon, et que pour être allé regarder des extraits de cette mise en scène sur YouTube, je trouve qu'il s'en inspire énormément.
En quoi il s'en reproche?
C'est une très bonne intelligence. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité dans la mise en scène.
De reprendre ce qui marche.
Je ne suis pas sûr que ce soit de l'humilité de Jérôme Deschamps. Je dirais que c'est un copiste de génie. Que j'ai effectivement, à l'époque où on l'a vu en salle, énormément ri en voyant l'inventivité, la folie et le talent de burlesque de la plupart des comédiens de cette troupe, mais dans une tradition qui avait été inventée finalement par Jacques Charon. Et ça me gêne.
Non, mais c'est aussi Feydeau, Vincent.
Oui, Armel, mais c'est vrai que c'est du copier-coller quand même de la mise en scène de Jacques Charon. Quand on regarde quand on regarde le spectacle qui a été tourné de la mise en scène de Jacques Charon avec Robert Hirsch, même Eck reprend exactement les mêmes gags.
Non, c'est Robert Hirsch.
Non, c'est pas les mêmes
choses. Mais c'est
Robert Hirsch.
Mimiques,
pas les mêmes grimaces, non.
Eh ben, vous avez regardé la mise en scène de Charon dans la captation
C'est
bah écoutez, moi je trouve
pareil.
Que, mais ça n'ôte rien au talent de Jérôme Deschamps, parce qu'il a su diriger les acteurs, leur donner le rythme et tout ça. Mais de l'inventivité de la mise en scène, non, il n'y en a pas.
On passe un bon moment quand même, non? Vous trouvez
pas? Oui, oui,
bien sûr, on passe un très bon moment.
Formidable.
Roger, un petit, quand même, que le séducteur dont toutes les femmes raffolent soit Hervé Pierre me pose un tout petit problème, parce que je trouve qu'il a pas le physique de l'emploi, et il est un peu vieux pour le rôle, Jean-Pia, puisqu'on en est à comparer des mises en scène qui se ressemblent. Jean-Pia a été beaucoup plus sexy que,
Hervé Pierre est un acteur plus intéressant que Jean-Pia, excusez-moi.
Mais enfin bon. Jean-Pia était un excellent acteur.
Je crois que vraiment, je regrette qu'on fasse un peu la fine bouche devant ce spectacle.
À moi aussi.
Est une, à mon avis, une très très grande réussite. Et d'ailleurs, son succès.
Mais c'est notre métier aussi de pouvoir éclairer les spectateurs sur l'originalité de la démarche d'un metteur en scène. Ça fait partie de notre. Sans nier le plaisir.
Les détourner d'un plaisir, ça me paraît pas une bonne idée. Après Robert Hirsch, on pensait tous qu'on n'en reverrait pas. On ne retrouverait jamais un clown pareil, parce que ce qu'il avait fait était purement génial. Il faut savoir que c'était jusque-là considéré comme un petit rôle, et d'ailleurs, il avait commencé par le refuser. Et Charon a eu beaucoup de mal à le persuader de jouer donc le rôle de Bouzin. Et il a été génial, c'est probablement un des plus grands rôles de sa carrière. Et donc, on se disait, bon, on ne reverra pas ça. Et on a retrouvé un Bouzin de même qualité, aussi drôle,
oui,
aussi burlesque.
Les mêmes gags, pas, qui reprend
pas
exactement
du tout,
les
pas
mêmes
du,
gags.
Absolument pas, mais si je peux me permettre, il a d'ailleurs obtenu le Molière du meilleur comédien pour ce rôle, et je pense qu'il le mérite entièrement. Et j'en reviens à Deschamps, je trouve que Deschamps aurait pu vouloir faire du Deschamps, il est suffisamment inventif dans ses spectacles pour qu'il n'ait pas justement à le prouver, et il a eu l'intelligence de se fier aux indications de Feydeau, non pas aux indications de Charon, mais aux indications de Feydeau, et ça donne effectivement un spectacle voisin, mais c'est tant mieux, et c'est une, à mon avis, une grande preuve d'intelligence de ne pas avoir cherché à paraître original à tout prix.
C'est un fil à la patte, c'est Feydeau, ça vient de la Comédie française et c'est notamment, je dis bien, disponible en replay sur France 5 qui vient de le diffuser. Cendrillon, c'est un spectacle de Joël Pomera créé en 2011 et accessible en VOD sur Vimeo. Et c'est après Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio, le troisième conte qu'il réécrit pour en faire, cette fois avec l'aide de Monsieur Freud, une pièce sur le deuil, mais aussi sur le malentendu, puisqu'une jeune fille, Sandra, croit entendre sa mère mourante lui dire « Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas tout à fait ». Et quand son père l'emmène vivre avec une femme tyrannique et ses filles fainéantes, Sandra ne se plaint pas de faire des tâches ingrates, comme si elle voulait se punir d'avoir pendant quelques minutes oublié de penser à sa mère, jusqu'au jour du bal pour l'anniversaire du prince. On connaît la suite et on saura évidemment à la fin du spectacle que ce n'est pas exactement ce que sa mère lui avait dit. Jacques, tiens, puisqu'on parle de Cendrillon et de Monsieur Freud.
Des trois contes de fées revisités par Pomera, pour ma part, c'est celui que j'ai le moins aimé. Il n'en reste pas moins que c'est un spectacle de haut niveau. Et c'est un spectacle très inventif et très beau. Mais Pomera a voulu démythifier absolument le conte, en retirer le sirop de Walt Disneyien, si j'ose dire. Et à mon avis, du coup, il le trivialise excessivement. Et cette Cendrillon, cendrier, masochiste, me semble trop freudienne. Alors que, par exemple, dans Pinocchio ou dans Le Petit Chaperon Rouge, sa poésie personnelle rejoignait et même par moments surpassait la poésie du conte original. Là, je trouve que c'est pas une démarche qui m'intéresse énormément. Voilà. Et Dieu sait que j'aime pas grand Fabienne. Et que je l'admire.
Ben moi, j'ai regardé la transcription et déjà, je me suis dit que ça avait beaucoup, la captation télévisuelle, je me suis dit que ça avait beaucoup évolué depuis le temps où je regardais, depuis 10 ans. J'ai été éblouie par le travail qui a été fait à l'image.
Ça a été recréé complètement. Hein.
Oui, ça a été recréé complètement et c'est formidable ce qu'on fait maintenant. Quand on se plaignait il y a encore 10 ans, en disant que le théâtre n'était pas montrable à la télévision, c'est faux, on peut tout à fait. Donc déjà, j'ai été saisie par ça.
Mais là, Fabienne, ce que vous dites est très important, parce que dans cette période terrible et creuse, où on ne peut plus accéder aux salles, c'est vrai que de dire que le théâtre, quand même, à l'écran et au petit écran, ça vaut le coup, c'est important aussi pour nos éditeurs, je trouve.
Ben bien sûr, et ça c'est un peu grâce au challenge que vous nous avez donné, Jérôme, que j'ai revu toutes ces pièces que j'avais vues et que j'ai revues sur écran et sur les plateformes. Et là, je dois dire, moi je ne partageais pas du tout ce que dit Jacques. Je trouve que c'est intelligent, c'est subtil, c'est surtout très méchant et sans espoir, puisque même la fin de Cendrillon, et je ne la révélerai pas, mais ce n'est pas tout à fait la même que dans le conte. Et la manière dont il montre les relations parents-enfants, mère, filles, sœurs, même les histoires d'amour qui finissent mal, là. C'est ancré dans l'aujourd'hui, dans des costumes d'aujourd'hui, le tout dans cette boîte de verre sur laquelle viennent se projeter des images et s'écraser des oiseaux, comme chez Hitchcock. Ça crée une atmosphère d'horreur. Et tous les clins d'œil que Pomera peut faire à Grimm, aussi bien qu'à Perrault, aussi bien qu'à plein de cinéastes d'épouvante, moi, je trouve ça totalement jubilant, et c'est vrai que ça fait penser à tout l'imaginaire que les contes véhiculent, quoi.
Alors, que pense de Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge de France Inter, Vincent Josse?
C'est mignon, mère grand. Écoute, je suis complètement d'accord avec Fabienne. C'est important de parler aussi de ce qu'on va voir là sur son ordinateur, parce que la captation fait que tu accroches ou pas, et c'est ce qui se fait de mieux, je crois, ce soir, dans ce qu'on a pu voir, dans le programme qu'on a pu voir sur le plan du filmage. Extrêmement bien réussi, je trouve, parce qu'on retrouve le grand photographe qu'est Pomera. Moi, je le compare toujours à un grand photographe avec une signature qu'on reconnaît immédiatement, cette façon qu'il a de plonger la scène dans une ambiance particulière, dans quelque chose de toujours inquiétant, ici, de terrifiant, une façon de jouer avec les noirs, de faire apparaître et disparaître comme par magie les comédiens. Et contrairement à Jacques, moi je ne vois aucune trivialité, je vois une volonté au contraire d'être dans le réel. Il y a des gamins maltraités comme Cendrillon, maltraités aussi comme ce prince à qui on fait croire depuis 10 ans que sa mère va lui téléphoner, c'est aussi de la maltraitance. Et il a l'intelligence, Pomera, de rester dans une forme de conte et d'aborder quelque chose de réaliste.
Armelle.
Eh bien, moi, j'ai été beaucoup moins séduite que je ne l'avais été quand j'ai découvert le spectacle. Le spectacle, en 2011, je l'avais trouvé magnifique, envoûtant, avec cette voix de narrateur ou de narratrice qu'on ne savait pas assigner. Était-ce un homme, était-ce une femme? Avec ses lumières, avec ce jeu de parties filmées et de parties jouées comme en un rêve, avec ce jeu des acteurs belges absolument extraordinaire. Eh bien, j'ai pas retrouvé ça. Le travail qu'a fait Florent Trochel pour recréer et filmer le spectacle est absolument extraordinaire, j'en conviens, parce que c'est une prouesse. Mais j'ai trouvé, comme Jacques, que tout d'un coup, il y avait des scènes qui devenaient trop dures, trop âpres, comme il le dit,
ça, c'est
un peu prosaïque.
Qui est une cruauté noire.
Oui, mais justement, mais... Ils ne protègent pas assez les acteurs, je trouve. Ils sont quelquefois comme ça, dans la lumière, avec des textes qui sont quand même pas d'une grande poésie. Et ça devient tout d'un coup très prosaïque et c'est dommage.
C'est Cendrillon, c'est signé Joël Pomera, c'est en VOD sur Vimeo. Si vous nous prenez en cours de route, vous écoutez bien Le Masque et la Plume, un masque téléphonique, un masque... grand public, un masque chirurgical, un masque qui est, je vous le rappelle, et plus que jamais, l'emblème du théâtre. Roméo et Juliette de Shakespeare, mise en scène là encore à la Comédie Française en 2016 par son actuel patron Éric Ruff, c'est diffusé ce soir 24 mai sur France 5, juste après Le Masque et la Plume. Et c'est disponible ensuite longtemps sur ce site de France 5 en replay. Écrite, Jacques Nerson s'en souvient, en 1595 et sans cesse adaptée au théâtre, mais aussi au cinéma, à l'opéra, en comédie musicale, bien sûr, West Side Story, c'est la pièce sur l'amour absolu qui défie tout, à commencer par, vous le savez, la rivalité ancestrale opposant leurs familles respectives. C'est donc l'amour fou qu'éprouvent l'un pour l'autre Roméo Montaigu, qui est joué ici par Jérémy Lopez, et Juliette Capulet, jouée par Suliane Brahim, une tragédie que Shakespeare... situé à Vérone, dans le nord de l'Italie, et qu'Éric Ruff a choisi de transposer au sud de la péninsule pour mieux faire ressortir la noirceur du texte sous un soleil écrasant, avec toute la troupe, bien sûr, du français, dont Claude Mathieu, je peux pas tous les citer, Serge Bagdasarian, Bakary Sangaré, Nazim Boujna, Daniel Lebrun, Didier Sandre. Je précise d'ailleurs que ce Roméo a été le premier des directs que la Comédie Française a fait avec Pathé Lèvre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce Roméo et Juliette? Fabienne.
Bien, moi, je n'avais pas tellement aimé le spectacle à la création parce que j'avais trouvé que c'était pas tellement mon Roméo et Juliette qui montait, mais Hamlet. Même si la pièce Hamlet a été écrite 15 ans après, le Roméo que présente Éric Ruff, et il a raison, il a lu le texte au plus près, c'est un mélancolique, dépressif, qui ne sait pas où il va, qui porte la mort en lui dès le début, en proie au doute, et qui manipule peut-être Juliette comme Hamlet manipulait Ophélie. Ça, mis à part, parce que la mort rôde sans arrêt en permanence dans le spectacle est très bien fait, très bien monté, bien joué. Pour moi, Jérémy Lopez n'a évidemment plus l'âge du rôle, puisqu'il a une trentaine, il est plus près des personnages de Tchekhov que des personnages de jeunes amoureux.
Il fait très jeune quand même, Fabienne.
Non, Armel, il fait pas très jeune. Mais... la démarche est intéressante. En plus, dans la mise en scène, ça se rapproche du cinéma italien. Il y a un côté Rocco et ses frères, c'est dans les années 30 à 50. Mais moi, il m'a manqué, même si c'est intelligent, même si on n'a pas l'habitude de cette version très noire de Roméo et Juliette, quand on entend les vers, et c'est bien pour une fois d'avoir choisi la traduction de François-Victor Hugo, parce qu'elle est d'une poésie flamboyante, quand on entend les scènes d'amour traduites par François-Victor Hugo, on ne les retrouve pas dans l'interprétation de Jérémy Lopez et de Suliane Brahim. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désir. Moi, je ne l'ai pas senti.
Armelita.
Du tout.
Mais parce qu'elle a peur. Elle a peur, Julien.
Non, mais on parle de lui.
Non. Moi, j'ai adoré ce spectacle lorsqu'on l'a vu à la Comédie Française. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lumière du Sud, ces catacombes, cette dureté. Mais là... de les voir filmer comme ça, et je dois dire en direct, hein, donc puisque c'est une captation pour le coup, oui, pendant une représentation française.
C'est Pathé Live qui a souvent décidé de retransmettre en direct certains des grands spectacles de la Comédie française.
Dans les salles de cinéma.
Ça dure trois quarts d'heure de plus quand même pour le spectacle.
Oui, mais ça fait rien. La réalisation de Don Kent est magnifique. On a une petite ouverture où on comprend qu'on s'adresse aussi au cinéma. Mais ce que je trouve admirable, et d'ailleurs tous les films qu'on a vus, toutes les versions filmées des pièces nous donnent ça, on les voit jouer de si près. On voit les détails de leur jeu. Et Fabienne, je t'assure que Soulyane Brahim, elle est déchirée, déchirante.
Et elle est une Juliette amoureuse, mais qui a peur. Puisque tu le vois très près, il n'a pas beaucoup d'expression. Oh, franchement.
Alors, qu'en pensent les Roméo du masque, Jacques et Vincent?
Ben, pour ma part, je rejoins tout à fait Fabienne. C'est-à-dire que je pense d'abord qu'effectivement, c'est une pièce presque immontable, puisqu'il faudrait que Juliette n'ait pas 14 ans. Alors, même Soulyane Brahim, effectivement, est plus âgé. Quant à Jérémy Lopez, il est alors carrément trop âgé. Donc, à mon avis, la pièce, déjà, elle n'est pas jouée. Si c'est pas l'amour d'adolescents, de jeunes adolescents, la pièce n'existe pas.
Et un coup de foudre.
Et puis, par ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est l'absence de point de vue de la part d'Éric Ruff. Alors, il y a un point de vue esthétique. La volonté de montrer cette ville blanchie par la canicule, comme ça a été dit.
Quelle Italie.
On a l'impression que le décor est sculpté dans un os de seiche, comme ça. Mais, à part ça, il n'y a pas de point de vue sur la pièce. Il n'a rien de précis à dire. Je suis d'accord avec Fabienne pour trouver qu'il n'y a pas de désir là-dedans.
Quand je pense que dans quelques minutes, certains de nos auditeurs du soir, parce qu'on en a aussi le matin, vont aller regarder ce Roméo et Juliette. Vincent?
Oh, ils s'ennuieront pas en allant voir cette captation, mais elle manque de beaucoup de choses. Elle est très belle. Il y a véritablement un parti pris, si parti pris il y a de la part de Ruff, d'une grande beauté, de cette chaleur du Sud, ses décors, le raffinement des costumes, Christian Lacroix. Mais c'est une beauté finalement un peu envahissante, un peu esthétisante, parce que même la mort ici est belle et élégante. Et on n'est pas terrifié, on ne rêve pas avec ses amoureux, notre cœur ne bat pas vraiment très fort. Et Ruff, je me souviens qu'il disait « J'ai envie de montrer la violence d'un amour en temps de guerre civile. » Mais je n'entends pas, moi, la violence de cette guerre civile dans ce qu'il fait du couple sur scène, hélas.
Bon, écoutez, vous pourrez en juger dans quelques instants. Pour ceux qui nous écoutent dans la diffusion du soir, c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. C'est à la Comédie française et c'est retransmis donc sur France 5 et ensuite disponible longtemps en replay. Et maintenant, notre bon vieux misanthrope, comédie en cinq actes de Molière, mise en scène par Stéphane Braunschweig au Théâtre National de Strasbourg, où il a été filmé en 2004 et qu'on peut voir gratuitement sur Vimeo jusqu'à la fin de l'année avec Claude Duparfait dans le rôle d'Alceste, cet atrabilaire amoureux qui déteste l'humanité, où il ne voit qu'hypocrisie, lâcheté, compromission, mais qui aime passionnément la coquette et caustique Célimène, jouée ici par Maud Le Grévelec, avec aussi Claire Aveline, qui est éliante, Jean-Marc Eder, Clitandre, Philippe Girard, toujours très bon, qui est Toronte, Thierry Paré en Philinte, une pièce présentée dans un décor très sobre, avec un lit au milieu de la scène sur lequel trône Célimène et de grands miroirs, où même le public, quand c'est en public et dans une grande salle ouverte aux spectateurs, où même le public peut se voir, sinon se mirer. Vincent.
Écoute, est-ce que c'est l'effet de la captation? Parce qu'encore une fois, on parle de ce qu'on voit là sur l'ordinateur. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez daté. Effectivement, les costumes sont contemporains, mais ça remonte à 2003, donc ils sont amples, etc. Et on se dit, tiens, le temps a passé. Et puis, c'était la première mise en scène d'un classique français de Braunschweig, et je le trouve, moi, très corseté, très tenu, beaucoup plus que ce qu'il a fait par la suite, notamment avec Britannicus. Je trouve que la proposition est très cérébrale. Je vois plus un cerveau torturé qui est en scène, mais pas un cerveau dans un corps. Il y a quelque chose d'extrêmement figé dans le dessin de Braunschweig, et du coup, dans le jeu des acteurs, je trouve ça, par exemple, extrêmement difficile de demander à Alceste, Claude Duparfait, de tenir un bouquet de fleurs pendant 20 minutes. Extrêmement difficile de demander à ces deux comédiens de rester assis alors qu'ils conversent et qu'ils s'enflamment, de rester assis sur une chaise face au public. Pour moi, il n'y a pas suffisamment d'incarnation et de théâtre. J'étais en manque.
Qui a dit oh non, c'est Fabienne ou c'est Armelle?
C'est moi.
Fabienne.
Ah, moi, j'ai adoré cette mise en scène. Faut dire
moi,
que
je suis comme Fabienne.
Ah, merci Armel. Je trouve que
je suis comme Vincent.
Je trouve que
Laissons parler
les
Célimène alors.
est un des acteurs les plus exceptionnels que nous ayons en ce moment et qu'on ne voit pas assez. Là, je crois qu'il est associé au Théâtre National de Strasbourg. Et du temps où Braunschweig le faisait travailler en permanence, on l'a vu aussi dans Tartuffe, c'était vraiment un couple, ils s'inspiraient l'un l'autre. C'était vraiment un travail exceptionnel à eux deux. Et toute la, le trouble, le paradoxe, l'énigme qu'est Alceste, parce qu'encore une fois, c'est cet homme qui refuse tout, mais que toutes les femmes adorent, elles sont trois ou quatre dans la pièce à l'adorer, il représente toutes nos contradictions. On évoquait Hamlet, c'est aussi une sorte d'Hamlet. Il est rigide et il aime la plus coquette des coquettes. Il est tellement épris de loyauté qu'il va se faire faire un procès à lui-même, accepter de perdre un procès pour prouver que la société est corrompue. C'est un type complètement fou qui porte toutes nos contradictions. Et ça, je trouve que Duparfait est exceptionnel là-dedans. Et quand vous parliez du manque de désir, du manque d'incarnation, Vincent, moi, c'est la première fois que je vois sur une scène Célimène et Alceste faire l'amour. Et ça, ça donne une dimension exceptionnelle au spectacle, ce grand lit où ils sont, où ils s'ébattent. Parce que finalement, on se dit que malgré tout, malgré les mots, eh bien, il y a du désir qui peut passer entre les êtres, quelque chose d'indéfinissable, même au théâtre, que les mots ne disent pas tout, mais que le corps dit des choses.
Le lit est le seul élément vraiment du décor qu'a choisi Braunschweig. Armelle, même sentiment que Fabienne ?
Tout à fait, j'adhère complètement à ce que dit Fabienne de Claude Duparfait, qui est un acteur exceptionnel et que j'étais heureuse de voir de près, là, si j'ose dire, jouer avec mille et une nuances. C'est lui qui a été aussi Arnolphe à bicyclette dans l'école des femmes qu'a présenté Braunschweig il y a un an ou deux. Il est magnifique, il monte lui-même des spectacles de Thomas Bernhard ou d'autres écrivains, il est formidable.
Jacques Nerson, qui est un peu notre Alceste du Sud-Ouest, qu'est-ce qu'il en pense?
Mais écoutez, moi, je suis absolument opposé à Duparfait. C'est-à-dire que je le trouve grimaçant, maniéré, il se tortille, il a l'air de marcher sur des talons aiguilles, alors qu'il marche en souliers plats. Je trouve qu'il ridiculise le personnage d'Alceste et presque autant qu'on nous montre Oronte, qui est joué par Philippe Girard. À la fin, j'ai l'impression de voir Buffalo Bill, le tueur du Silence des agneaux. J'ai plus l'impression de voir ça qu'Alceste. Et Alceste, vous dites que toutes les femmes l'adorent. Moi, je vois pas comment elles pourraient aimer un Alceste incarné par Duparfait, qui est complètement ridicule, qui n'a aucune chair, qui n'a aucune sensualité.
La féminité dont vous parlez.
Pardon, chez moi, mais il a aucune chair, aucune sensualité, et évidemment, le couple ne marche pas. Non, vous savez, en plus, il y a une absence d'idée dans cette mise en scène incroyable. C'est très figé.
C'est pas parce qu'il n'y a pas de décor qu'il n'y a pas d'idée.
Mais c'est pas, il n'y a pas de décor, mais je suis d'accord.
D'ailleurs, il y a une glace mais là, qui y a renvoie pas d'idée la société de la c'est cour ce que je disais, à l'apparence. Oui.
Il n'y a pas d'idée. Je suis désolé. C'est une mauvaise version.
C'est le misanthrope de Molière, monté par Braunschweig au TNS, est disponible sur Vimeo. Et je vais vous faire un petit aveu à tous les quatre, mais vous savez, vous entendre, vous chamailler, vous battre à propos du théâtre, pour l'instant, ça me fait un plaisir fou, parce que d'abord vous en parlez bien, mais en plus vous me laissez presque croire que les salles sont ouvertes et qu'elles vont être, je l'espère, bientôt rempli. Allez, un dernier petit plaisir avant de parler, j'espère qu'on aura un peu de temps avant de parler d'un film. Un de ces plaisirs que finalement le confinement aura permis, autorisé, c'est cette petite merveille qui est Oh les beaux jours de Beckett, en visionnage gratuit jusqu'au 23 juin sur le site de l'INA, diffusé sur l'ORTF, l'ORTF, le 21 septembre 1971, avec Madeleine Renaud dans le rôle de Winnie et Régis Soutin dans celui de Willy. La pièce est mise en scène par Roger Blin, qui en 63 l'avait créée à l'Odéon. Mais là, c'était avec Jean-Louis Barrault en Willy. La scénographie, elle a jamais varié, très simple. C'est pas un lit, mais c'est un gros mamelon au milieu d'un désert, et c'est là que Winnie est enfoncée jusqu'à la taille et qu'elle monologue, ou plutôt s'adresse à son mari Winnie qui est caché derrière le mamelon. Deux actes suffiront à Madeleine Renaud pour s'enliser et rendre grâce au ciel des beaux jours qui lui sont donnés. On va pas reparler de Beckett, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que c'est une curiosité, ce document-là, peut-être le plus ancien de ceux que je vous propose aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Armelle?
Écoutez, j'ai adoré revoir ce texte, réentendre ce texte, et je vous jure que c'est la première fois que j'ai compris chaque mot de Samuel Beckett. Et pourtant, je l'ai vu souvent, cette pièce. Mais là, comme on voit Madeleine, c'est Jean-Paul Roux qui a filmé la mise en scène de Blin, on voit que chaque mot fait référence à quelque chose, en fait, de très concret. Or, moi, quand je voyais Olé Beaujour, parfois, je ne comprenais pas, au fond, qu'elle parlait de la situation concrète. Et que cet enfermement dans ce malmelon, ok, c'est la vie, c'est notre enfermement dans la vie, mais que toutes les choses de sa vie à Winnie sont concrètes. Et c'est merveilleux.
Jacques.
Alors, je distingue deux choses. La première chose, c'est évidemment Madeleine Renaud qui est merveilleuse. Elle a joué ce rôle, vous savez, jusqu'à l'âge de 86 ans.
Qu'elle n'y comprenait rien.
Oui, je pense qu'il n'y a pas que cette pièce qu'elle ne comprenait pas. Mais par ailleurs, pour la pièce, je suis désolé, mais c'est une pièce qui a été créée exactement en même temps que Le Roi Sommeur de Ionesco et qui traite du même sujet, c'est-à-dire la vieillesse, l'univers qui rétrécit, l'enlisement progressif, l'engourdissement provoqué par la vieillesse jusqu'à la mort. Et je trouve que la pièce de Ionesco est infiniment plus forte.
Et vous n'avez jamais aimé Beckett,
Jacques. C'est vrai, mais là je trouve ça bavard. Je suis désolé, mais on vante toujours la concision de Beckett. Et ben là, je trouve que c'est très bavard.
Ça n'a rien Fabienne. À voir, Jacques. Ça n'a Fabienne. Rien à voir. Le Roi Sommeur ben, parle de l'angoisse
si ça
d'un voir, roi,
ça a été écrit en même temps par des auteurs rivaux.
C'est
donc si ça a à voir, excusez-moi, mais on peut faire des parallèles.
Oui, mais c'est un hymne à la vie. Le corps empêché reste le verbe qui devient une sorte de prière métaphysique et elle vit par les mots. On peut vivre que par les mots. C'est ça aussi que nous dit Beckett. Même si on est empêché, corseté, et ça, c'est la vie sort triomphante de ce spectacle. Moi, c'est ce que je trouve magnifique. Magnifique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interprétation de Madeleine Renaud, surtout filmée de si près, c'est son style éminemment français. On entend Marivaux quand elle parle, on entend Molière.
Des styles très variés, hein, parce qu'elle elle a différents...
Mais des styles très variés. Tout ce qu'elle a pu jouer, tous ses fantômes de théâtre, avec sa précision, sa diction. Beckett, je crois, disait d'elle qu'elle était un oiseau. Et c'est vrai qu'elle volait de texte en texte et tout à coup se trouve incarnée dans cette femme prisonnière d'un mamelon tout le répertoire et tous les fantômes de théâtre. Et ça, je trouve ça magnifique.
Vincent.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle a une plume dans son chapeau, alors.
Peut-être.
Moi, je trouve qu'on tombe amoureux de Madeleine Renaud avec son physique de petite danseuse de boîte à musique.
Elle n'était pas toujours gentille, hein.
Non, mais je parle uniquement de la prestation
même
de la comédienne.
Méchante.
Oui, ça c'est connu dans le métier.
Marie-Christine Barrault. Elle a même des aspects vulgaires par moments.
Marie-Christine Barrault évoque très bien la
vulgarité partout, là.
Madeleine Renaud. Mais c'est quand même une idée géniale d'enfermer une comédienne dans un trou, non? C'est tellement anti-théâtral que.
Bah, il a bien enfermé des salué dans
sa
des
performance.
Aussi, hein.
Bien sûr, mais là, je trouve que ça marche plus que jamais, cette confiance au texte de la part de l'interprète, et puis le talent de Madeleine Renaud. Et puis peut-être que je suis un peu trop sentimental, mais comme on voit ça en temps de confinement ou de déconfinement, moi j'ai pensé à la vieillesse, j'ai pensé à la solitude des gens dans des EHPAD, à des personnes âgées qui s'en tiraient ou pas. J'ai fait vraiment une projection avec le moment. Alors je suis peut-être un petit peu trop sentimental.
Ah mais tu n'as pas tort. Elle est là pour le coup dans ce rôle, elle est vraiment confinée là, Madeleine Renaud.
Voilà, elle est confinée. C'est une pièce sur le confinement, bien sûr, et ça a ajouté à l'émotion, c'est vrai.
Alors c'est un document qui date, hein, il faut le savoir, la couleur est un peu passée, l'image,
oui.
Elle n'est pas formidablement de bonne qualité, mais moi je trouve qu'il y a une émotion qui peut être due aussi effectivement à la présence toujours quand même très incroyablement physique de cette petite Madeleine Renaud. C'est « Oh les beaux jours » de Beckett et encore une fois c'est en visionnage gratuit jusqu'au 23 juin sur le site de l'INA. Et on termine cette émission théâtre avec un film, et oui, un film, mais pas n'importe lequel. C'est Le Molière ou la vie d'un honnête homme d'Ariane Nouchkine, qui là est visible sur Vimeo.com, biopic de 1978, où j'ai redécouvert, ça je l'avais oublié, qu'Ariane Nouchkine était non seulement assistée à la réalisation par Elie Chouraki, mais qu'elle était produite par Claude Lelouch, ce qui fait un attelage absolument surprenant, avec bien sûr Philippe Cobert dans le rôle titre, Brigitte Catillon en Armande Béjart, Jean-Claude Pinchenat qui jouait Louis XIV, Roger Planchon qui était Colbert, votre
Daniel
ami Daniel Mesguich qui est monsieur le frère du roi, un film de 4 heures, où j'ai retrouvé cette scène que je n'avais jamais oubliée. Elle n'est pas sur Molière, mais vous savez, c'est la scène grandiose où les gondoles envoyées par Venise à Lully glissent sur la neige des Alpes. Et pour moi, c'est un peu à l'image de ce film fresque qu'est le Molière de Mnouchkine. Fabienne.
Pour moi, c'est un poème, ce film sur Molière. C'est aussi un hommage à la troupe de théâtre, puisque personne n'a vraiment un rôle énorme, un rôle premier. Même Molière, finalement, ils se font en permanence dans la compagnie qu'il a fondée. Et il y a quelques scènes, elle nous montre la manière dont elle montre la France du XVIIe est formidable. Et il y a des scènes qu'on se prend. Alors, c'est long. Hein. Moi, j'ai vu la version de 4h09. Ben, c'est la version qui est sur Vimeo.
C'est long, c'est long.
Mais on se prend à se perdre dans ce poème épique. Alors, il y a des scènes, la scène de la mort de Molière est absolument bouleversante. Mais moi, surtout, ma redécouverte, c'est Philippe Cobert. Philippe Cobert sans accent du tout, là, on voit qu'il avait travaillé, qui est d'une poésie, qui donne de Molière...
Et qui ne parle pas de lui, pour une
exactement.
Fois.
Et qui donne de Molière une idée fraternelle, la manière dont son amour pour Madeleine Béjart, puis ensuite pour sa fille, Armande, tout ça est montré avec une pudeur. Et les yeux bleus de Philippe Cobert, regardant le monde, regardant le théâtre, ses difficultés avec le roi, pour moi, ça a été un moment d'éblouissement.
Vincent.
On l'a déjà vu, moi je l'ai vu gamin, là aussi à l'école, je l'ai revu quand il est sorti en DVD avec des commentaires critiques d'ailleurs d'Ariane Mnouchkine qui parfois trouvait qu'elle était trop longue, qu'elle se laissait un petit peu trop aller au plaisir de voir la beauté des costumes, le talent des acteurs et la beauté des décors. Elle disait là je me suis enivré, j'ai oublié Molière, mais on a envie de la rassurer et presque de la prendre dans nos bras tellement c'est un bonheur immense. Je me suis pas ennuyé un instant moi pendant ces 4h09 ou 10. Parce que la vie explose à chaque instant sur l'écran, celle de Molière, celle de ses comédiens, celle de la troupe, parce que parlant de la troupe de Molière, elle parle de la sienne, le Théâtre du Soleil. La vie des gens, elle traverse le royaume et ils apprennent ensemble cette troupe, le théâtre, en jouant devant les Français, devant le peuple qui a faim. Je trouve qu'elle n'oublie jamais la réalité, le réel du temps de Molière et qu'elle sait le restituer. Et puis j'ai été très ému par sa façon de filmer les femmes et de tenir compte, par exemple, de la présence de Madeleine Béjart dans la vie de Molière. C'est Joséphine de Rennes qui est exceptionnelle. Elle est là pour aimer Molière, pour lui enseigner le théâtre, pour le guider quand il se trompe. Elle le pardonne aussi quand il est infidèle et elle accompagne l'amour de sa vie. Et ça m'a bouleversé, moi, cette relation entre Madeleine Béjart et Molière qu'on connaissait, mais de l'avoir incarnée comme ça, pleine de chair. Chapeau, Ariane Mnouchkine.
Armelita.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. L'image est magnifique, les costumes, les décors, la troupe, la célébration de la troupe, l'extraordinaire Philippe Cobert, que moi j'ai toujours aimé, et qui là ressemble un peu à Patrick Devers, il est tout fin, tout minuscule.
Ah, c'est juste.
Une grande partie du film a été tournée à la cartoucherie même, dans des décors de Guy-Claude François et des costumes de Françoise Tournafond, et comme il y avait, ça coûtait très très cher, il y avait donc Lelouch, effectivement, puis il y avait aussi le papa Alexandre Mnouchkine, Guy-Claude François avait fait des parois, d'un côté il y avait une rue, de l'autre il y avait un palais. C'était merveilleux, l'hiver 77-78, quand elle a tourné ça, c'était avec trois bouts de ficelle apparemment, et ça restitue la splendeur du siècle, et puis l'amour de cette femme immense pour Molière. Je voulais signaler, parce que dans Télérama, il y a une
Armelle,
interview d'elle absolument exceptionnelle, sur le Covid qu'elle a traversé, qu'il a failli la terrasser. Et ça reste non seulement le plus grand artiste qui nous reste avec Peter Brook, peut-être des gens comme ça, mais aussi une conscience. Et on sent cela dans le film.
Jacques ?
Ben, je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que ce film aurait pu être admirable si Ariane Mnouchkine avait eu un producteur un petit peu plus exigeant et qui, notamment, l'avait empêché de faire un film deux fois trop long, mais vraiment deux fois trop long. Et s'il y avait eu un montage resserré, si elle avait su renoncer à prolonger des scènes, je pense qu'elle est tellement contente de disposer de moyens importants qu'elle s'extasie devant les images qu'elle produit.
Mais elle le dit,
et elle a raison,
elle le dit, elle le
parce qu'elles sont belles.
Elles
sont très belles, ces
côté.
Images. Mais il y a un moment où il faut savoir couper, il faut donner du rythme.
Minutes.
Il faut donner du rythme aux œuvres. Là, il n'y en a pas. Et je suis désolé, mais malgré la beauté des images à la Vermeer, etc. On s'ennuie
malheureusement.
Je suis désolé, mais ça n'est pas un bon film. Ça n'est pas un bon film, et en plus, historiquement, on le sait maintenant, c'est totalement faux. Ce qu'elle raconte sur Molière n'est absolument pas vérifié.
Tout n'est pas faux. Non.
Totalement faux.
Qu'est-ce qu'il y a de faux ?
Ah ben, toute l'enfance, on n'en sait rien, c'est de la légende.
C'est un film qui donne envie d'aller au théâtre.
C'est Molière
d'Ariane
Nouchkine,
qui fait l'éloge
le film
comédien.
Qui est visible sur Vimeo. Voilà, avec ma devise du jour, je crois que vous l'avez compris, c'est « N'abandonnez pas le théâtre ». Je vous demande maintenant des conseils, DVD, VOD, même livres, si vous le souhaitez, pour terminer ce masque et la plume théâtre. On commence avec Armelle.
Oui, alors un livre, parce qu'on a vu beaucoup de films, mais on a aussi lu. Et j'avais reçu juste avant le confinement un très joli livre qui s'appelle « Réjeanne ou la belle époque », qui est écrit, alors ce sont des textes de Jacques Porel, un avant-propos de Jean-Marie Perrier, qui est son arrière-petit-fils, un texte du regretté François Baudot, et c'est paru chez Privat, dans la collection Loin de Paris, et ça refait vivre cette grande comédienne, Réjeanne, qui est morte très tôt, à 40 ans, en 1920, et qui reste une gloire, une légende pour nous tous.
Le conseil de Fabienne.
Alors, d'abord, des pastilles tout à fait délicieuses faites par le Théâtre de la Huchette pour fêter le 70e anniversaire de la cantatrice chauve en 7 épisodes. C'est une histoire de la cantatrice en pastilles de quelques minutes. C'est drôle comme tout. Et puis ensuite, une curiosité, David Bobet, qui dirige le CDN de Normandie, a repris un de ses textes faits qu'il a fait travailler par ses acteurs de manière confinée. C'est donc un nouveau spectacle confiné. Et ce qui est très drôle, c'est que Kirill Serebrennikov a fait exactement la même chose à Moscou. Le même texte fait de Ronan Chesneau, monté par Kirill Serebrennikov, qui est le grand metteur en scène qui a eu tellement de démêlés avec Vladimir Poutine. Et on peut voir en parallèle les deux expériences et les deux manières de monter un texte qui raconte les désarrois d'un jeune homme de 25 ans aujourd'hui. C'est tout à fait passionnant.
Très rapidement, mon conseil, c'est un tout petit livre qui s'appelle « Une lumière au cœur de la nuit ». C'est Georges Banus, c'est chez Arléa, et qui raconte sa passion pour le théâtre en célébrant ses lustres. Et oui, les lustres qui sont suspendus au plafond de la Comédie Française ou de l'Odéon, et de la manière dont ils ont illuminé les mises en scène, notamment de Strehler, de Mnouchkine toujours, de Gruber, de Pintillier ou d'Ostermeyer, « Une lumière au cœur de la nuit ». Le conseil de Vincent.
Un documentaire sur Vimeo qui s'intitule « Changer de regard ». Le thème, ce sont des lycéens de Sarcelles qui, pendant un an, vont faire partie d'un atelier de théâtre. C'est un film de 50 minutes signé Mathieu Foubert et Patrick Muller. Ils sont pris en charge, ces 15 lycéens, par des profs de français et une journaliste que l'on connaît, puisque c'est Joël Gaillot, ex-France Culture et pigiste à Télérama. Et avec ses enseignants, ses animateurs, ses animatrices, je ne sais pas comment il faut les appeler, ils vont tout découvrir, ils vont tout apprendre, tout expérimenter. Et on voit pendant cette année, au fil des saisons finalement, la parole se mettre en route, l'écriture, on voit des enfants devenir des adultes, on assiste à une métamorphose. C'est une des choses les plus belles que j'ai vues pendant ce confinement. Je vous rappelle, le titre, c'est « Changer de regard sur Vimeo ».
Et le conseil de Jacques ?
Moi, ça serait d'aller fouiner sur le site de la Comédie Française ou d'essayer de trouver sur Amazon des DVD, notamment la trilogie de la villégiature, la mise en scène de Strehler, qui est un miracle absolu, très bonne captation et une mise en scène d'un génie total.
Merci. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur la page du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, beaucoup, Fabienne Pascaud. Armelle Héliot, Vincent Josse et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et réalisée à ciel ouvert par le Strehler des ondes, Xavier Pistuggia avec la précieuse Élise Christophe. Je vous dis à dimanche prochain, 11h et 20h pour un masque cinéma sur France Inter évidemment.